Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. Je suis ravi de vous retrouver pour votre forum mondial quotidien. Dans 30 minutes, le débat du jour. Nous allons parler de l'élection présidentielle au Mali. Le premier tour avait lieu dimanche. On attend les résultats officiels. Et tout à l'heure, on va revenir sur la journée de scrutin. C'est quelques 700 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. La participation visiblement faible par endroit. La peur des attaques aussi. Quel bilan tirez-vous du déroulement de l'élection présidentielle malienne? On vous attend au 33 9 693 693 70. Mais comme chaque jour, d'abord vos questions sur l'actualité, les questions que vous posez à la rédaction de RFI. Elles vont nous permettre ce mardi matin de parler du retour de Jean-Pierre Bemba, du premier procès contre Monsanto et du Tour de France cycliste. Pour commencer, nous sommes en ligne avec Georges qui nous a appelé de Brazzaville au Congo. Bonjour Georges.
Bonjour Arnaud Pontus, bonjour à toute l'équipe d'antenne de RFI, bonjour à tous les auditeurs de RFI, bon réveil à tous.
Merci et bonjour à vous. Vous avez des questions à propos de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de République démocratique du Congo, acquitté par la CPI, attendu désormais dans son pays. Pour le moment, il est toujours à Bruxelles. Avant d'en venir précisément à vos questions, Georges, quelques précisions avec Florence Maurice qu'on retrouve en direct de Kinshasa. Bonjour Florence.
Bonjour à tous.
Bemba était attendu, espéré par ses partisans, dès aujourd'hui, à Guémena. Finalement, ce serait demain qu'il arriverait, et à Kinshasa.
Et oui, la décision a été prise dimanche soir, annoncée hier lundi. La raison, c'est que Guémena, qui était prévu comme la première étape dès aujourd'hui, n'est pas un aéroport international. Or, un vol qui vient de l'étranger, Bruxelles en l'occurrence, doit, selon la législation, atterrir sur un aéroport international. Alors le symbole aurait été fort de voir Jean-Pierre Bemba réserver les premiers pas de son retour à la tombe et à la mémoire de son père, qui se trouve donc à Guémena. Mais ils ont donc cherché des compromis, proposé de faire une courte escale à Kinshasa. Finalement, l'étape de Guémena est repoussée à samedi.
Merci pour ces précisions, Florence. Georges, qui nous appelle de Brazzaville, vous avez une question sur les conditions du retour de Jean-Pierre Bemba. On vous écoute.
Oui, je veux savoir quelle est la garantie donnée par l'État congolais pour un retour de Jean-Pierre Bemba en toute sécurité demain à Kinshasa.
Alors, quelle garantie de l'État congolais, Florence ?
Alors, on peut dire déjà que l'autorisation pour l'avion de Jean-Pierre Bemba d'atterrir à Kinshasa a été délivrée cette nuit, selon le MLC. Son atterrissage est donc toujours prévu demain à 9h. Ensuite, Jean-Pierre Bemba s'est vu octroyer un passeport diplomatique dans un délai assez court. Ce passeport, il y a droit en tant que sénateur. Le MLC note aussi comme un signe positif que la DGM, la Direction Générale des Migrations, lui a accordé également un visa à sa femme et à ses 5 enfants. D'ailleurs, le MLC ne surjoue pas l'inquiétude, ils sont plutôt dans une démarche d'apaisement et note le fait que Jean-Pierre Bemba est sénateur et qu'à ce titre, l'État congolais a le devoir de le protéger.
Justement, hier, dans l'après-midi, Florence, le gouverneur de Kinshasa avait convié le MLC à une réunion pour parler sécurité. Qu'est-ce qu'il en est sorti ?
Alors Eve Bazaïba, la secrétaire générale du MLC, en est sortie rassurée. Tous les détails techniques n'ont pas encore été réglés. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui avec la police. Mais sur le principe, en tout cas, ils sont tombés d'accord sur le parcours qu'empruntera Jean-Pierre Bemba et sur le fait que la police jouerait son rôle pour encadrer le cortège et les militants venus l'accueillir. Il y avait une inquiétude soulevée de part et d'autre. Elle vient du domicile choisi par Jean-Pierre Bemba pour résider. Tout près de l'entrée de la présidence, dans ce qu'on appelle le quartier résidentiel de Kinshasa. Il a donc été convenu que les partisans de Jean-Pierre Bemba, qui l'accueilleront, ne l'accompagneront pas jusqu'à cette étape-là. Ils s'arrêteront juste avant. Quant à la garde permanente que le MLC a demandé pour le sénateur pendant son séjour, le principe a été accordé, mais le nombre de policiers fait encore l'objet de discussions. Ce pourrait être moins que prévu. F. Bazaïba envisageait au départ par une une dizaine de policiers. Pour le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, à qui j'ai parlé, les craintes autour de ce retour ne sont pas fondées, même si un problème de sécurité se posait pour Jean-Pierre Mbemba. Selon lui, ce serait plutôt du côté de la Centrafrique où se trouvent les victimes des faits pour lesquels il a été jugé à la CPI. Mais ici, à Kinshasa, dit-il, il est chez lui, aucune référence au contexte violent, on s'en souvient, dans lequel Jean-Pierre Mbemba avait quitté précipitamment la RDC en 2007.
Georges, vous aviez une autre question sur les enjeux politiques de ce retour.
Oui, la deuxième, c'est est-ce que Jean-Pierre Mbemba est-il accordé avec Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi pour décider de la candidature unique de l'opposition à la présidentielle de fin d'année 2018.
Alors, est-ce que Mbemba s'est mis d'accord avec les autres potentiels candidats de l'opposition pour une candidature unique, Florence ?
Du côté du MLC, on assure qu'aucun accord n'avait été signé, même si des discussions, oui, il y en avait eu, évidemment. Le sénateur avait reçu dans sa prison de Scheveningen aux Pays-Bas l'essentiel des candidats déclarés de l'opposition comme une sorte de passage obligé pour anticiper les différents scénarios. Et alors qu'à l'époque, bien peu imaginait son acquittement, ce dernier a annoncé qu'il tenterait de rencontrer donc les autres candidats pendant son séjour quinois. Il sera d'ailleurs intéressant de voir si les leaders des autres partis d'opposition seront là mercredi sur le tarmac pour l'accueillir. Mais ce qu'il faut dire à ce stade, Georges, c'est que tout le monde semble d'accord pour attendre la fin de la période du dépôt des candidatures pour se décider, c'est-à-dire le 23 septembre prochain, la date de publication de la liste définitive des candidats, car ils ne veulent pas risquer de se mettre d'accord sur un candidat qui, finalement, ne pourrait pas concourir, car il y a des incertitudes sur Jean-Pierre Mbemba, sur Moïse Katumbi aussi, qui a une nouvelle fois annoncé son retour pour vendredi, lui, mais n'a toujours pas reçu de passeport et est toujours poursuivi en RDC.
Florence, est-ce que c'est tout de même possible ? Comment est-ce qu'on réagit les leaders de l'opposition au propos de Jean-Pierre Mbemba sur l'idée de cette candidature commune ? On s'en souvient, c'était le 25 juillet sur RFI.
Du côté de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi et de l'UDPS de Félix Tshisekedi, donc on ne fait pas de commentaires justement avant la fin de cette période du dépôt des candidatures. Martin Fayoulou, un autre candidat d'opposition déclaré, rappelle lui qu'en 2011, l'opposition avait déjà tenté de faire l'unité derrière la candidature d'Étienne Tshisekedi, mais que certains s'étaient désolidarisés. Quant à Vital Kamerhe, le président de l'UNC, comme Jean-Pierre Mbemba, il ne voit pas d'autre voie que celle d'une candidature commune. Lui qui avait choisi justement de maintenir sa candidature en 2011, il estime que le contexte a changé et que cette fois un accord devrait être trouvé, mais s'interroge comment le choisir. Voilà, donc on est encore loin d'un accord et ce qui, aux yeux des observateurs, complique la donne, ce sont notamment les allers-retours de certaines personnalités de l'opposition, d'une formation à l'autre. Rappelons par exemple qu'en 2006, lorsque Jean-Pierre Mbemba était candidat, Moïse Katumbi était du côté de la majorité présidentielle et que la plateforme Ensemble a aussi recruté des proches de Jean-Pierre Mbemba qui se sont détournés de lui après son emprisonnement. C'est le cas par exemple d'Olivier Kamitatou, aujourd'hui directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Donc on le voit, derrière ces discussions autour d'une candidature commune, il y a beaucoup d'enjeux.
Merci Florence. Maurice Akinsassa aura l'occasion d'en reparler. Georges, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, très bien, très satisfait.
Merci à vous et bonne journée à Brazzaville. Pour la prochaine question, nous sommes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Anne. À tous les auditeurs.
Vous avez des questions au sujet du premier procès contre Monsanto. Les débats de ce procès, je le rappelle, ont démarré il y a 3 semaines à San Francisco, aux États-Unis. La multinationale géant de l'agrochimie Monsanto est accusée. Le plaignant s'appelle Dwayne Johnson. C'est un Américain de 46 ans. Il est atteint d'un cancer en phase terminale. Et il accuse Monsanto d'être responsable de sa maladie parce qu'il a vaporisé durant 2 ans des herbicides produits par la marque. En l'occurrence, le Roundup et le Ranger Pro qui contiennent du glyphosate. Pour répondre à vos questions sur les enjeux de ce procès, nous sommes en ligne avec Valérie Cabanne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste en droit international, défenseuse des droits humains et de la nature, membre aussi du comité fondateur du tribunal Monsanto. Emmanuel, quelle est votre première question ?
Comment un tribunal peut-il démontrer ou pas le lien de la maladie de Dwayne Johnson et l'utilisation répétée du Roundup alors que les études sont contradictoires?
Valérie Cabanne.
Alors effectivement, c'est au juge hein, d'en décider. Il va s'appuyer sur la base de rapports des médecins de Dwayne Johnson, probablement. C'est comme ça que cela se passe. Il va aussi s'appuyer sur des avis d'agences de recherche. Et comme vous le disiez, ces avis peuvent être contradictoires. Nous savons aujourd'hui que depuis 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme cancérigène probable. Cela aura forcément une influence sur l'avis du juge, même si les agences européennes chargées de la sécurité des aliments, des produits chimiques ou l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, pour l'instant, ne le reconnaissent pas comme cancérigène. Ce que je voudrais surtout signifier, c'est que c'est un procès qui va faire cas de jurisprudence. Comme vous l'avez dit, il y a 4 000 plaintes en cours aux États-Unis contre Monsanto ou contre le Roundup. Et donc, ce procès qui s'ouvre va être bien évidemment regardé par tout le monde et le juge va avoir une responsabilité très forte en termes de jurisprudence. Il ne pourra rien décider à la légère.
Est-ce que c'est légalement, pour en revenir précisément à la question d'Emmanuel, est-ce que c'est légalement possible de prouver le lien entre l'utilisation d'un produit et l'apparition d'une maladie ?
Oui, si je me base par exemple sur la famille Grataloup en France, qui est aussi en train d'intenter un procès à Monsanto, parce que la maman a pulvérisé aussi du Roundup enceinte et que son enfant, depuis, a subi 53 opérations, on a des certificats médicaux qui, pour, en tout cas en âme et conscience, les médecins considèrent qu'il y a un lien direct parce qu'ils ont pu étudier, par exemple, le fait qu'elle a pulvérisé au moment où le fœtus développait son œsophage, et quand l'enfant est né, c'est l'œsophage qui était mal formé. Donc le juge est obligé de s'appuyer sur des avis.
Sur l'expertise médicale.
Oui. Sur l'expertise médicale, absolument.
Mmh. Emmanuel à Ouagadougou, vous aviez une deuxième question.
Oui, beaucoup d'articles indiquent que Monsanto aurait manipulé les médias pour démontrer que son produit est inoffensif. Est-ce que c'est avéré ?
Valérie Cabanne, est-ce que Monsanto a tenté de cacher la vérité ?
Alors, pour l'instant, oui, on considère que c'est avéré. C'est un plus pour Johnson, pour le cas Johnson, puisque Monsanto a été accusé d'avoir sciemment caché aux utilisateurs les risques du Roundup. C'est en fait dans le cadre d'un procès qui était intenté par des centaines de travailleurs agricoles qui étaient touchés par un cancer du sang. A été révélé ce qu'on appelle les Monsanto Papers, des milliers de documents internes de Monsanto qui ont été publiés en mars 2017 et qui montrent que Monsanto, depuis 1999, était déjà inquiet en interne du potentiel mutagène du glyphosate. C'était un rapport qui avait été commandé à un scientifique, qui a été ensuite enterré et qui démontre aussi des méthodes très douteuses où l'entreprise a en fait payé des scientifiques de renom pour qu'ils apposent sans eux-mêmes écrire le rapport, leur signature sur des études réalisées en interne, et de manière à discréditer en fait tout rapport qui parlait d'un caractère cancérigène, cela depuis déjà les années 80. Donc je pense que les Monsanto Papers vont être, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a autant de plaintes en ce moment, parce qu'on peut, s'appuyer sur ces Monsanto Papers.
C'est une brèche juridique, oui. C'est une façon de s'appuyer et de faire une démonstration, de prouver que Monsanto a volontairement caché la dangerosité de ses produits.
La dangerosité des produits.
Emmanuel avait une dernière question sur la suite. Emmanuel, on vous écoute.
Si le procès donne raison à Dwayne Johnson, le Roundup pourrait-il être interdit de vente aux États-Unis ?
Valérie Cabanne, est-ce qu'on va vers une interdiction du Roundup et des autres désherbants de la marque Monsanto si Monsanto est finalement condamné ?
Alors, il y a une petite subtilité dans la plupart des procès en cours et qui me fait dire que c'est pas vers cela qu'on tendra. C'est qu'en fait, le procès Johnson, comme d'ailleurs le procès Grataloup en France, s'appuie sur le fait que Monsanto ne donne pas d'indications assez précises, c'est-à-dire sur la qualité de l'information, sur les précautions à prendre quand on utilise le produit. C'est ce que Johnson explique en disant « si j'avais su que c'était aussi toxique, j'aurais pris plus de précautions ». Sabine Grataloup dit la même chose. Et donc, je pense que le jugement va porter Et si c'est, si c'est en défaveur de Monsanto, va, enfin Monsanto Bayer, hein, puisque n'oubliez plus que
Bayer a racheté Monsanto, oui.
Bayer a racheté Monsanto, va porter sur le fait que il ne démontre pas, il ne montre pas la toxicité suffisamment sur leurs produits, sans pour autant en arriver à interdire.
À l'interdiction, produit. Voilà.
Voilà, des produits dangereux, on en utilise tous. Parfois dans le quotidien, et on regarde l'étiquette et on prend les précautions d'usage, ouais. on met un masque.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir condamnation de Monsanto, mais pour le fait d'avoir mal informé en fait les utilisateurs des produits.
Exactement, et c'est là où c'est compliqué d'en arriver justement à démontrer le caractère véritablement cancérigène. Tant que les grandes agences de recherche ne se mettront pas d'accord là-dessus, on va avoir des procès à répétition où on n'arrivera pas à prendre une décision particulièrement concrète dessus.
Voilà. Ouais. Merci Valérie Cabanne. Je rappelle que vous êtes juriste en droit international. Merci d'avoir répondu aux questions d'Emmanuel à Ouagadougou. Emmanuel, vous êtes satisfait des réponses?
Bien sûr, Arnaud. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.
Merci à vous. On va refermer cette première partie d'appel sur l'actualité avec question de Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour Arnaud Pontus. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez, vous aussi, de Ouagadougou, et vous vouliez revenir sur le Tour de France cycliste. Alors, on va aller vite, on a 3 minutes, on va changer de braquet. L'édition 2018 a été remportée, je le rappelle au cas où certains l'aient oublié, par le Gallois Geraint Thomas. Quelle est votre question, Samuel?
Ma question est la suivante. Comment comprendre la victoire de Geraint Thomas au détriment de Christopher Froome, leader de l'équipe Sky?
Alors c'est Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI qui vous répond. Thomas qui était sur les Champs-Élysées dimanche pour vous faire vivre l'arrivée du Tour. Alors pourquoi Thomas a-t-il été plus fort que Froome?
Alors comme souvent Arnaud, quand on parle de l'équipe Sky, il y a beaucoup de fantasmes, de théories. Cette fois, on se dit que Dave Brailsford, le manager, le grand Manitou si vous voulez de cette équipe, aurait choisi d'installer Geraint Thomas en numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il est gallois comme lui, parce qu'il est aussi plus docile, moins clivant. Entendu aussi l'idée de calmer les foules en mettant volontairement en retrait un Froome, on le sait, escorté de soupçons. Ça, ce sont les théories, mais l'explication la plus plausible, elle est physique. Geraint Thomas était tout simplement plus fort. Il n'a pas, comme Christopher Froome, le Tour d'Italie dans les jambes. Il est arrivé frais, extrêmement bien préparé. Il n'a jamais flanché et étape après étape, on s'est aperçu à la pédale qu'il était tout simplement le patron de cette équipe Sky, que c'est lui qui pouvait la faire gagner. Voilà, je crois pas vraiment à une explication autre que physique, surtout que on le sait, si Chris Froome gagnait ce Tour, il rentrait dans le club très prestigieux des légendes, de ceux qui l'ont gagné 5 fois, Merckx, Hino, Anquetil et bien sûr Indurain.
Samuel, vous aviez une autre question?
Oui.
On vous écoute.
Comment peut-on expliquer l'attitude des spectateurs?
Alors, on vous entend plus, mais vous vouliez demander comment comprendre l'attitude des spectateurs à l'égard de Froome. On se souvient que ça avait été houleux, hein. Un spectateur lui a craché dessus, un autre a tenté de le faire tomber. Les cris, les bras d'honneur, enfin, il n'a pas couru dans une ambiance sereine, Thomas.
Oui, c'est vrai qu'il y a de la méfiance, il y a des soupçons qui accompagnent ses performances depuis, d'ailleurs, ses premiers coups d'éclat. Soupçons, bien sûr, renforcés depuis l'annonce en fin d'année dernière de son contrôle anormal au salbutamol sur la Vuelta 2017. Suite à ça, l'Union Cycliste Internationale a engagé une procédure. Froome peut courir dans l'attente du verdict et juste avant le Tour, qu'est-ce qu'on apprend? La direction de la Grande Boucle ne l'autorise pas à prendre le départ. Comme par hasard, le jour suivant, l'AMA publie son rapport. L'UCI blanchit donc Froome. Il est blanchi dans les textes, pas vraiment dans l'esprit des gens. Évidemment, c'était peut-être pas la meilleure solution du monde de l'autoriser à prendre le départ.
Et Samuel, qui n'est plus en ligne malheureusement avec nous, nous demandait aussi comment est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots donc la domination de l'équipe Sky, puisque ça fait 6 ans, 6 victoires.
Oui, 5. C'est une équipe très puissante financièrement, un budget de 40 millions d'euros, 2 fois plus que la plupart des autres grandes formations. C'est un petit peu comme le PSG en football, si vous voulez, Arnaud. La Sky, elle peut acheter les meilleurs coureurs, les équipiers de cette équipe. Ils pourraient être leaders ailleurs, à G2R, au Movistar, mais là, ils sont seulement équipiers.
Sous.
Voilà, ils ont les sous.
Ils ont les sous, ils les achètent, ils les font rouler.
Exactement. Et puis, il y a quand même, on va leur accorder l'art de la stratégie. Ils ont vraiment, entre Dale Brailsford et Nicolas Portal, de mettre en la matière. On va leur accorder ça quand même.
Oui, quand même. Il y a un peu de cerveau aussi. Merci à Thomas de Saint-Léger et merci à Samuel à Ouagadougou qui nous a posé cette question. Vous restez avec nous.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.